Vous êtes sur RTL.
À tout de suite.
15h, 16h.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Toutes nos pensées vous accompagnent si vous subissez cette météo enragée. On débute ensemble et en direct une semaine de partage et de conversation. Soyez les bienvenus sur RTL. Nous sommes ensemble, je vous le disais, jusqu'à 16h en direct et j'attends vos messages. Et je sais à quel point aujourd'hui ils seront nombreux.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
Au début, ils sont charmants, ils sont craquants, ils vendent du rêve, ils se rendent indispensables, ils ne s'appellent pas tous Kevin, mais ils mettent des paillettes dans votre vie. Puis vient le temps des sautes d'humeur, des petites phrases assassines reçues comme des uppercuts, des absences inexpliquées, des reproches, de l'indifférence, des accusations, des menaces. Et puis à nouveau, la douceur, les cadeaux, les attentions qui redonnent espoir. Un espoir de courte durée qui fait à nouveau place à une remise en question constante, à des dévalorisations, à de la violence verbale, psychique et parfois même physique. Alors comment sortir des griffes d'un manipulateur ou d'une manipulatrice? Pourquoi est-ce si difficile de prendre conscience que quelque chose ne tourne pas rond? Et surtout, comment ne plus culpabiliser et trouver la force de dire enfin stop? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Christelle Petit-Collin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes coach et écrivain, Christelle, auteur d'un livre « Pourquoi trop penser rend manipulable » aux éditions Très Daniel. Alors on va revenir sur ce titre, mais est-ce que tout le monde aujourd'hui peut être manipulé, peut être sous emprise? Est-ce que ça peut nous arriver à tous?
Absolument. On considère qu'il n'y a même pas 10% de la population qui n'est pas influençable de cette façon.
Pourquoi trop penser nous rend-il manipulable?
Alors le paradoxe n'est qu'apparent. Plus on est intelligent, plus on est manipulable, parce qu'on se pose trop de questions, parce qu'on se remet trop en cause, parce qu'on essaye trop de comprendre l'autre, tout ce qu'il ne faut pas faire avec un manipulateur.
Voilà, et puis ce sont des voix aussi hein, que l'on a en nous qui nous disent d'arrêter, d'arrêter, mais de toutes petites voix. Et c'est vrai que la réflexion vient bien souvent les étouffer. À vos côtés, Sophie Lambda. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes illustratrice et vous avez écrit un livre, Tant pis pour l'amour, ou Comment j'ai survécu à un manipulateur aux éditions Delcourt. C'est un guide pratique. Je peux me permettre de l'expliquer ainsi.
Oui, on peut dire
c'est
ça.
C'est votre expérience.
La deuxième partie est un guide pratique. Ouais. Après, la première partie du livre est un témoignage où je raconte vraiment une partie de l'histoire, pas tout, parce que sinon le livre aurait été beaucoup trop gros.
Plus de tomes qu'on
aurait fallu en faire deux. Mais oui, j'ai vraiment voulu faire un guide pratique et illustré surtout, parce qu'il y a beaucoup de livres qui traitent de ce sujet. Moi, ça me passionne. Mais voilà, j'avais envie vraiment de rendre toutes ces astuces, tout ce qu'il faut savoir pour échapper à ça, de façon ludique et accessible, un peu plus populaire.
Vous avez pensé beaucoup, hein, justement, comme le dit Christelle, c'est-à-dire que vous avez beaucoup réfléchi et vous avez été emmené très très loin dans vos réflexions. C'est ça d'ailleurs qui vous a épuisé et qui vous a rendu manipulable.
Oui, je pense, oui. Mais je m'en suis rendu compte après, malheureusement. Oui. Avant, je n'avais pas vraiment conscience, ni que moi, j'étais capable d'être comme ça et que j'étais la victime idéale, en fait, d'un manipulateur. Ça, je m'en suis rendu compte après. Mais effectivement, oui, j'ai dû... moi, la seule chose qui m'a sauvée et qui m'a aidée dans la période sombre qui suit une histoire avec un manipulateur, c'était de lire, d'apprendre, de m'instruire et de mettre toutes ces petites douleurs dans des petites cases pour savoir de quoi il s'agit.
Comprendre. Ce qui nous arrive. On va accueillir Karine, si vous le voulez bien, sur cette antenne. Bonjour Karine.
Oui, bonjour Flavie.
Merci d'être avec nous, soyez la bienvenue. On va développer votre histoire dans un instant. Est-ce que vous auriez pu imaginer, vous Karine, qui êtes avocate, un métier où vous combattez, un métier où vous vous exprimez, un métier, je dirais, de puissance, d'éloquence, de réflexion et d'une certaine forme de clairvoyance, est-ce que vous auriez pu vous imaginer un jour vous retrouver dans les griffes d'un manipulateur?
Non seulement je n'imaginais pas, parce que j'ai quand même mis 15 ans à me séparer du manipulateur, donc vous imaginez bien que j'ai mis le temps, mais je voudrais vraiment me battre pour dire aux gens que ça peut arriver, comme vous l'avez dit, à tout le monde. Et on n'est pas à l'abri, quoi. C'est pas le métier, c'est pas l'intelligence qui fait que le manipulateur ne va pas arriver à nous détruire.
Oui. Alors, heureusement, il n'y arrive pas toujours complètement, mais c'est vrai qu'on reviendra, c'est Paul-Claude Racamier, hein, l'éminent psychiatre qui s'était intéressé au pervers narcissique, qui avait dit la seule chose à faire avec un pervers, c'est le fuir. Voilà. Vous avez réussi à le faire, vous, au bout de 15 ans. Vous allez nous raconter votre histoire dans un instant. Il y a une chose, en tout cas, qui est sûre, c'est qu'il y a une sorte de mode opératoire qui peut permettre à certains, à certaines qui nous écoutent, de s'alerter. Et puis, parfois, un entourage aussi, hein, qui se rend compte avant nous de ce qui se passe. On va va essayer de décrypter tout cela dans un instant. Nous sommes en direct. Karine, vous ne bougez pas et nous non plus. On se retrouve tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre.
N'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux dont on est fait pour s'entendre, notre page Facebook. Alors si vous faites appel à un pigeon voyageur, je ne suis pas persuadée que vous arriviez jusqu'à nous, jusqu'à 16h, d'ici 16h. Mais vous pouvez également composer le 3210 et témoigner sur cette antenne, même nous poser des questions puisqu'aujourd'hui on parle de la manipulation. Des manipulateurs, des manipulatrices. Dans un instant, nous allons accueillir, poursuivre notre conversation avec Karine qui est en ligne avec nous. Christelle Petit-Collin, vous êtes notre invitée en compagnie de Sophie Lambda. On parle plus de manipulateurs. Est-ce à dire que les femmes ne se prêtent pas à ce genre de... basse...
Absolument pas. Il y a autant de manipulatrices que de manipulateurs.
Vraiment.
Ils représentent l'un et l'autre 2 à 4% de la population, ce qui est peu et énorme en même temps, parce qu'ils ont un gros pouvoir de nuisance. Simplement, on dénonce davantage les manipulateurs que ce qu'on dénonce les manipulatrices.
Pour quelle raison ?
Parce que les hommes n'ont pas encore récupéré la parole, le droit de parler, parce qu'ils sont empêtrés dans leur code de l'honneur, leur galanterie, mais aussi l'obligation qu'ils ont de se montrer fort en toutes circonstances.
Voilà, l'homme victime qui n'ose pas toujours parler. Voilà. Et d'ailleurs, pour être tout à fait sincère, on a beaucoup de messages effectivement de femmes victimes.
Beaucoup plus, oui.
Et pas d'hommes. Karine, vous êtes toujours en ligne avec nous. L'oreille avertie aussi de Sophie Lambda, qui est notre invitée et qui raconte son histoire dans un livre aux éditions Delcourt. Karine, vous venez de nous expliquer il y a un instant que vous n'auriez jamais pu imaginer vous retrouver dans cette situation. Ça a duré 15 ans. Vous êtes quelqu'un de plutôt fort, clairvoyant, intelligent. Et puis, vous vous êtes retrouvée un jour, quoi, réduite à l'état de quoi ? À l'état d'objet, de petite fille, est-ce que vous avez été infantilisée dans cette relation ? Comment est-ce que vous pourriez décrire ce que vous êtes devenue, finalement ?
Eh bien, en fait, j'étais effectivement avocate. J'ai exercé depuis 10 ans. Tout allait pour le mieux, puisque j'avais une progression constante, on va dire. Et puis, je suis tombée sur quelqu'un qui avait effectivement 20 ans de plus que moi. Alors, je pense pas que ce soit véritablement la différence d'âge qui fait que je me suis infantilisée. Mais c'était plutôt la personne en elle-même, son charisme, un chef d'entreprise qui avait pignon sur rue, qui faisait un métier sympa, qui voyageait. Et qui du coup m'en a mis plein la vue, c'est-à-dire que même si j'étais avocate et que j'étais bien dans mon métier et que j'avais aussi des clients, des affaires, etc., j'étais quand même éblouie.
Il était terriblement séduisant.
On peut pas dire véritablement séduisant dans le sens beau gosse.
Non, mais j'entends, oui, même pas dans ce sens-là.
Mais par contre, le charisme, oui,
ouais,
faisait que, il savait séduire par les mots, par ce qu'il faisait, et voilà.
Est-ce qu'il a tout fait pour vous séduire ? Est-ce que c'était un homme actif ?
Ah oui, il a sorti grand jeu.
Justement.
Ah,
voilà,
il a sorti grand jeu.
Allons-y.
Alors. Ah non, mais ça a été les voyages. En Inde, en Californie, une maison en Californie, et puis des amis qui avaient aussi une certaine renommée, quelques stars et quelques c'était la vie de château.
Alors,
au début,
au-delà de ça, est-ce qu'il était particulièrement gentil ? Est-ce qu'il vous complimentait ? Est-ce qu'il faisait de vous finalement aussi à un moment donné une princesse ? C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes dit, mais en fait, j'ai une chance incroyable d'être tombée sur cet homme ?
Mais au début, oui, forcément, voilà. c'est comme ça qu'il commence à vous mettre sous leur emprise, la manipulation. Ouais. C'est effectivement, on a l'impression d'être une princesse, des je t'aime tous les jours. Au bout de 8 jours, il voulait qu'on se marie alors qu'il n'était pas divorcé. Enfin, bon, voilà. Mais oui, non, c'était bien bâti comme stratégie.
Qu'est-ce qui s'est passé après ? Parce que c'est à ce moment-là, justement, et c'est pendant cette période-là, je dirais que vous avez été quelque part endormie parce que vous étiez en train de vivre. Qu'est-ce qui se tramait derrière tout ça ?
Derrière tout ça, après, il a fallu que je sois, on va pas dire sa boniche, mais un peu le faire valoir à la fois et en même temps celle qui devait tout faire pour lui et pour sa vie à lui, pour sa famille à lui, pour ses amis à lui. Quoi. Voilà, j'étais devenue sa chose, oui, effectivement.
Mmh. Voilà. Donc c'était son monde à lui, c'est-à-dire que le vôtre, au fur et à mesure, s'est réduit comme peau de chagrin. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été isolée ?
Ah, complètement. De toute façon, la manipulation, elle a été dans le sens où il fallait m'affaiblir financièrement et m'isoler dans mon travail. Donc, du coup, comme il était chef d'entreprise, bah, je suis devenue son avocate et il n'y en avait plus que pour lui et ses affaires. Et après, effectivement, dans mon monde amical et même familial, hein, il a fait aussi une œuvre d'isolation totale.
Mais il faisait comment alors?
Il invitait mes amis, puis il s'engueulait avec eux à table. D'accord. Pour des sujets complètement des bêtises, hein, mais et puis après, bah, mes amis disaient, on va peut-être pas revenir chez toi, c'est quand même un petit peu embêtant.
En fait, il a éloigné ceux qui auraient pu à un moment donné vous alerter.
Ah ben complètement. Mmh. Et puis moi je me renfermais, et plus vous êtes affaibli, plus vous vous renfermez, moins vous avez confiance, moins vous allez vers les autres en plus, pour dire bah tiens, voilà ce qui s'est passé hier, voilà ce qui s'est passé, ou voilà ce que j'ai entendu. Donc il y a eu un repli complet qui fait qu'on s'isole aussi après encore plus.
Alors Sophie Lambda vous écoute, dans un instant elle va nous donner justement son point de vue sur la question, et puis Christelle Petit-Collin, vous qui êtes coach, hein, et qui vous êtes intéressée justement au phénomène d'emprise, je vous vois là, vous me regardez et je vois dans vos yeux que ce que nous raconte Karine, en fait c'est une sorte de mode opératoire, hein, qui peut alerter certains qui nous écoutent. Karine, à tout de suite sur RTL.
À tout de suite.
RTL,
on est fait pour s'entendre. 15h, 16h, on est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Alors Karine, on vient d'entendre le début de votre histoire édifiante. Hein. Ça a duré 15 ans. Vous avez été victime, hein. Enfin moi c'est un terme ne me pose pas de problème, mais victime d'un grand manipulateur, hein, qui a fait la totale. Sophie Lambda, vous écoutez Karine. Est-ce que son histoire trouve résonance? Est-ce que votre histoire trouve résonance dans celle de Karine?
Les modes d'opération sont les mêmes, c'est assez affligeant, sachant que moi, mon histoire a duré moins d'un an. Je reconnais malgré tout.
Et pourtant, ça vous a emmené loin aussi. Hein.
Ça m'a emmené très loin. C'était très rapide en fait. Lui, c'était quelqu'un qui faisait tout ça, mais de manière beaucoup plus rapide. Donc après, moi, j'ai réussi à. Enfin, je sais pas où j'ai trouvé cette force, mais à partir avant que ma vie financière et. Enfin, on n'habitait pas ensemble. J'étais encore indépendante quand je suis partie. Donc pas loin, mais j'ai réussi à partir avant tout ça. Mais du coup, c'est vrai que c'est toujours le même. C'est toujours le même schéma, quoi.
Donc un homme hyper séduisant, je ne parle pas physiquement, hein, mais en tout cas qui fait tout pour vous séduire.
Puis qui savait bien s'adapter à moi, parce que moi je ne suis pas forcément sensible à la séduction comme on peut l'entendre. Vraiment, les fleurs, les repas chers, les bijoux, tout ça, moi je ne suis pas très sensible à ça. Mais par contre, il était très... Il avait l'air très honnête dans ses émotions. Il accueillait les miennes avec des bras grands ouverts. Enfin, c'était ce qu'il me fallait à moi, en fait. Donc, il s'est très bien adapté. Je pense qu'ils savent aussi s'adapter à qui ils ont en face d'eux.
Alors, c'est la question qu'on va poser à Christelle Petit-Collin. Il y a le mode opératoire que l'on peut retrouver quand même chez la plupart des manipulateurs, manipulatrices. Mais ce sont des personnalités caméléons.
Alors, ils ont deux visages, déjà. Le deuxième visage, on découvrira plus tard. Et le premier visage, qui est un masque, est effectivement un masque qui se met en mimétisme. C'est-à-dire qu'il se met en face de nous, il nous fait des grands yeux, il dit « Ah, c'est extraordinaire, moi aussi ». Et quoi qu'on dise, moi aussi, et j'allais le dire, et c'est exactement... Et on ne s'en rend absolument pas compte. Mais ça fait tellement plaisir de rencontrer quelqu'un, effectivement, qui semble faire partie de notre monde. Donc, je vous invite vraiment à vous méfier si vous avez quelqu'un qui est trop tout pareil que vous, à voir les antennes qui se dressent.
En tout cas, dès le début, hein, parce que je m'adresse aussi à ceux qui sont mariés depuis 30 ans, avec lesquels tout se passe bien.
Le mimétisme ne fonctionne plus. Non, là.
Voilà,
il en a fini avec le mimétisme au bout de 30 ans.
Alors, le ressort de la séduction, on l'aura compris, et de l'isolement. Alors, c'est ça qu'il faut bien expliquer, c'est que les manipulateurs vont faire en sorte de fragiliser... l'objet de leur désir, je ne sais pas comment le dire.
Mais exactement comme dans la savane. Dans la savane, le lion va isoler le gnou, essayer de l'éloigner au maximum du troupeau, le désorienter, l'épuiser et ensuite le croquer. Les manipulateurs humains font la même chose. Ils vous éloignent du troupeau, ils désorientent complètement, ils vous épuisent
Ils vous mangent. D'accord, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des ressorts, vous m'avez dit, il y a un instant en antenne.
Alors, ils ont quatre ficelles, la séduction, la victimisation, c'est le plus malheureux de la Terre, il nous inspire de la pitié, la culpabilisation, tout est de notre faute et ils sont purs et innocents, et l'intimidation sous toutes ses formes, qui va de la bouderie jusqu'aux menaces, aux pressions, Juste mettre tout le monde en tension, rien que ça, c'est de l'intimidation.
Ça peut durer longtemps, Karine, hein, 15 ans.
Oui.
Un jour, vous vous êtes réveillée, vous vous êtes dit, bon alors attends, moi je suis devenue dépendante financièrement de cet homme, je ne vois plus mes amis parce qu'on s'est fâché avec eux pour des raisons qui visiblement ne devaient appartenir qu'à lui, mais pas à vous, puisque vous aviez des amis avant, donc voilà. Mais vous avez pris le parti de votre homme, ou en tout cas vous étiez déjà coincée, donc vous n'aviez pas d'autre choix. Plus de famille pour pouvoir vous dire à un moment donné, et oh là, Karine, il se passe un truc dans ta vie, ça ne va pas du tout, je ne te reconnais pas. Et par quoi passer l'intimidation dont nous parle Christelle Petit-Collin. Est-ce qu'il vous parlait mal? Est-ce qu'il...
L'intimidation, oui, bien sûr. C'est regarde, moi j'ai réussi, regarde où t'en es, parce qu'au fur et à mesure, effectivement, de l'installation de la dépendance financière, c'est j'étais devenue dépendant de lui, de sa société, de tout, quoi, de la vie au quotidien, de mon métier. Où je vivais qu'à travers ses affaires à lui. Oui, donc l'intimidation, elle venait de là. Et c'était insidieux. Après, moi, ça a été 15 ans parce qu'on a eu un enfant et que j'ai voulu... C'est bizarre, mais j'ai été obligée de le protéger parce que, bien évidemment, la manipulation, elle se faisait aussi à l'égard de l'enfant. C'est-à-dire que j'avais aussi de la pression là-dessus, quoi, parce que je m'étais dit il faut que tu tiennes le coup parce que sinon il risque de s'en prendre à ton fils quand il sera en droit de visite, en garde ou je ne sais quoi. Donc il fallait que je protège également mon enfant de tout cela, qui lui aussi était victime par ricochet. Hein. C'est lui qui m'a dit aussi à un moment donné, maman, il faut partir, il faut qu'on s'en aille, quoi. C'est terrible parce qu'en plus, très franchement, le métier que je pratique, oui, des divorces, on en voit, des couples qui s'entendent pas, on en voit, mais quand on ouvre les yeux, on voit plus les divorces de la même façon, les gens de la même façon. C'est quelque chose d'assez terrible, et pour moi terrible d'en parler parce que j'ai l'impression que, compte tenu de ma profession, on doit se dire mais non, comment elle a pu ne pas voir.
Mais justement, c'est en ça que votre témoignage était intéressant aujourd'hui. Je vous remercie, Karine. Le temps file sur RTL. Certains nous parlent effectivement de la justice qui n'est pas parfois pas d'une grande aide. On y reviendra dans un instant. Karine, je vous embrasse. On vous souhaite le meilleur
moi
à
aussi.
Vous et à votre enfant,
merci.
Votre fils. À bientôt
merci.
Sur RTL. Au revoir, Karine.
À bientôt.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
On embrasse Hélène qui nous écrit. Bonjour, j'écoute avec beaucoup d'attention votre émission, mais je ne souhaite pas intervenir en direct car mon état physique face à ce sujet est indescriptible. Je suis séparée le 17 juillet 2018 de ma conjointe manipulatrice. Je suis restée 15 ans avec elle et de notre union sont nées deux petites filles que nous avons eues par PMA en Belgique. Je suis partie avec mes filles un soir où elle est rentrée alcoolisée, m'a frappée devant les enfants. J'ai appelé la police puis mes voisins au secours et je ne suis jamais revenue. Je vous fais évidemment un raccourci de mon histoire qui n'est pas terminée car comme beaucoup à l'époque, comme beaucoup l'évoquent, il y a l'après-séparation. On y reviendra dans un instant. En tout cas, on vous embrasse. Rose, il n'y a pas d'âge. Je l'ai rencontrée, j'avais 20 ans. Ça n'a duré qu'un an et ça m'a détruite. Aujourd'hui, 4 ans après, je suis anorexique et j'en fais des cauchemars. J'ai tout perdu, mon caractère, mes valeurs, mes repères. On parle aujourd'hui de la manipulation amoureuse, la manipulation dans le couple, les manipulateurs, les manipulatrices, en compagnie de Sophie Lambda et de Christelle Petit-Collin. Sophie, j'aimerais qu'on revienne, ce que vous décrivez très très bien dans votre livre, qu'on revienne sur la fragilité dans laquelle un manipulateur peut nous mettre, c'est-à-dire cette incapacité, un temps que l'on a à réagir, à nous élever contre la personne qui vit avec nous, qui se permet des choses absolument impossibles, ça dépasse l'entendement, et pourtant on accepte, on ne bronche pas et on n'a plus confiance en soi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui fait qu'à un moment donné, on n'ose pas partir ?
Déjà, ça commence petit à petit. Les choses horribles qu'il a pu faire, il ne les a pas faites tout de suite.
Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on est endormi.
On est endormi et puis surtout, moi j'ai tendance à beaucoup, beaucoup me remettre en question. Ce qu'on disait, ce que j'ai appris ensuite dans le livre de Christelle, ma voisine.
À trop penser.
À trop penser, on devient manipulable. Moi qui ai beaucoup tendance à me remettre en question, quand il me relatait une réalité qu'on avait vécue ensemble et qu'il me la modifiait, au début, il l'a modifié un petit peu, donc je me dis, bon, ça passe. Et puis la deuxième fois, un peu plus, la troisième fois, un peu plus. Et au bout d'un moment, notre réalité est complètement déformée. Et on l'achète, en fait. Moi, je lui faisais confiance aussi, c'est ça. C'est que je faisais confiance en la personne qu'il était. Je comprenais pas l'importance de ses mensonges. Donc, on les accepte. Et puis, au bout d'un moment, on n'a même plus confiance en ses propres souvenirs et en sa perception.
Il y a une différence incroyable entre l'image que l'on peut renvoyer à l'extérieur et ce qui se passe à un moment donné derrière les volets clos des maisons. Vous avez connu les deux visages de ce même homme. Est-ce que c'est ça aussi qui brouille à un moment donné le
Oui, puis on a honte en fait, parce que c'est vrai qu'on était un peu le couple. Quand on nous voyait, tout le monde disait « Oh, ils sont mignons, ils ont l'air super ».
Ce qui est pire.
Ce qui est pire que tout, puisque en plus le couple idéal n'existe pas. Mais bon, là c'est l'image qu'on donnait. Donc il y avait cette honte de faire tomber un petit peu le voile en fait sur le couple mignon qu'on était. De un, et puis de deux, ça je m'en suis rendu compte après, mais moi ce qui me bloquait aussi, c'est que son entourage à lui avait parfois un comportement un peu étrange avec moi, que je ne comprenais pas. Et par la suite, je me suis rendu compte qu'il me faisait déjà passer pour folle quand on était ensemble. Je sais qu'il l'a fait après, pour se défendre, mais en fait ça avait commencé quand on était ensemble, et ça je l'ai su après.
Alors, on est hystérique. On tient pas ses nerfs.
On est jalouse.
On est déchieuse. On est tout le temps mise. Alors ou mis.
Instable.
C'est le discours.
Christelle Petit-Colin.
C'est le discours standard de l'homme violent. T'es complètement folle. T'es hystérique. Tu es insupportable. T'es jamais contente.
Tu deviens vraiment idiote.
T'es idiote. Oui, ça, bien sûr. Mais c'est vraiment tout est de ta faute à toi. Et moi, je ne fais que réagir. À tes dysfonctionnements. Donc, effectivement, si on se remet trop en cause, à un moment donné, on ne réalise pas que c'est lui qui induit tout ça.
Ces hommes-là ou ces femmes-là soignent la devanture. Pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « Tiens, ça me parle, je suis en train de vivre ça », est-ce qu'on peut expliquer aussi, Christelle Petit-Colin, la différence entre ce que ces personnes peuvent renvoyer et ce qu'elles sont ou ce qu'elles se révèlent être dans la réalité ?
C'est vraiment comme si un manipulateur vous projetait un mirage ou un hologramme à l'extérieur. Et donc, on se retrouve, nous, leurs victimes, à participer à la mystification. Et de l'extérieur, on est le couple idéal, comme le disait Sophie.
Donc, on est complice presque du trou qu'on est en train de...
Mais ce que m'expliquait une victime, elle disait « Mais finalement, la vitrine, c'est tout ce qui me reste, vu comme ça s'est effondré derrière. » On parlait de honte. Donc de honte d'avouer, et plus la vitrine va être belle, plus la honte d'avouer va être profonde.
Derrière la vitrine, qu'est-ce qu'il y a, Christelle, concrètement ?
Un enfer.
Alors concrètement ?
Quelqu'un qui vous regarde avec un regard de haine, qui vous méprise complètement, qui vous prend pour un meuble. On parlait de violence, effectivement, elle se met en place, cette violence, par transgression test des limites. C'est-à-dire qu'il
transgresse
tellement sournoisement qu'on rate le moment de dire non et de dire stop.
On va se retrouver dans un instant. Ève est en ligne avec nous. On va revenir sur les enfants parce que vous êtes restée un an, hein, Sophie, avec cet homme. Oui. D'autres restent plus longtemps. Et puis à partir du moment où un enfant arrive dans l'histoire,
la personne est piégée à vie parce que les enfants sont instrumentalisés.
On va en parler dans un instant avec Ève.
Jusqu'à 16h sur RTL.
On est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand.
Raphaël est un homme. J'ai été victime d'une manipulatrice, nous écrit-il. Elle pouvait être adorable pendant quelques jours et devenir une personne horrible, menaçante et injurieuse. Elle m'avait convaincu que j'étais un bon à rien. J'ai fini par croire que je ne savais rien faire. J'étais son jouet. Jusqu'au jour où une autre femme m'a dit que j'étais quelqu'un de bien. Et là, j'ai tout plaqué et je me suis battue pour ma fille. Avoir un enfant, Christelle Petit-Colin, lorsque l'on est victime d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, vous l'avez dit, c'est savoir que l'on va toute sa vie devoir composer avec la présence de cette personne. Ève est en ligne avec nous. Bonjour Ève.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez 33 ans, Ève. On va pas pouvoir revenir sur toute votre histoire, mais on l'aura compris, vous avez vous-même été victime d'un homme qui vous a manipulé, qui vous a menti. Il y a quelque chose aussi dans votre histoire qui est particulièrement intéressant, c'est cette façon qu'il avait de tout centrer sur lui. Hein, un manipulateur, Christelle Petit-Colin. Hein,
et narcissique,
hein, bien évidemment. Et donc, on a tendance à raser les murs en voulant forcément le mettre ou la mettre en valeur. Un jour, vous avez eu un petit garçon, Hein, ça c'est quand même magnifique de pouvoir mettre au monde un enfant. Cet enfant est le fruit aussi de cette histoire dont vous avez pris conscience. Est-ce qu'au moment où vous étiez enceinte, vous saviez déjà, Ève, que c'était quelque part foutu, est-ce que vous aviez déjà repéré quel était cet homme?
En fait, je me rendais compte que quelque chose clochait. Il y avait des mensonges. Je me rendais compte qu'il y avait des mensonges, mais j'étais pas complètement. J'avais pas la vérité, donc.
Oui. Pourtant, vous êtes partie quand votre petit garçon avait 2 mois seulement.
Oui, tout à fait, parce que j'ai découvert des choses sur lui. Mmh. En fouillant dans son téléphone, tout bêtement, hein, tout simplement. Mmh. Et de là, c'était plus possible. Et ma famille m'a vraiment bien appuyée.
Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez découvert, Ève?
Il m'avait fait croire, par exemple, que son père était décédé pendant notre relation. C'était en fait juste un alibi pour pouvoir se volatiliser quelques jours. J'avais découvert que son père était vivant, qu'il avait sans doute d'autres conquêtes. Il y avait beaucoup de choses comme ça.
Ouais, je comprends et je compatis. Tout à l'heure, j'ai cité Paul-Claude Racamier, qui est un psychiatre, hein, qui dit effectivement, enfin qui déclarait que la meilleure chose à faire avec un pervers, c'est de le fuir. On va y revenir dans un instant, parce que Christelle Petit-Collin, elle parle d'évasion. Comment est-ce que vous êtes partie, vous? Du jour au lendemain, votre petit bonhomme sous le bras.
À peu près, ouais. Enfin, je me suis laissée un délai de 2 semaines avec ma famille est venue et m'a aidé à déménager. Vraiment, oui, du jour au lendemain, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté la région où j'étais pour retourner chez mes parents.
Et
pour me faire
chouchouter.
Ouais.
Bah oui,
non, il s'y attendait pas, non.
Comment a-t-il réagi?
Assez calmement, en fait. C'était pas quelqu'un de violent, même si on aurait pu s'attendre, vu finalement la personne qu'il était, il aurait pu devenir violent. Il n'a pas été violent. Il a compris, il m'a dit certaines choses, certaines vérités, mais je pense qu'il y a encore des choses qui étaient fausses. Je n'ai pas des réponses à toutes mes questions. Mais après, c'est quelqu'un qui continuait à garder le contact, c'est-à-dire que...
À travers votre fils, j'imagine.
Oui, mais c'était juste un prétexte parce que je me rendais compte que c'était pas pour lui qu'il m'appelait, c'était vraiment pour moi. Il m'appelait plusieurs fois par jour, j'avais des messages souvent, toute la journée, comme si on était encore très bons amis.
Est-ce que vous avez réussi à rompre définitivement le lien? Parce que c'est compliqué lorsque l'on a un enfant. D'abord, il vous appelait pour vous appeler vous et pas forcément pour prendre des nouvelles de votre fils. Est-ce que c'est déjà un père aujourd'hui présent encore dans la vie de votre petit garçon?
Non, du tout.
Donc ça veut dire qu'il a rompu tout lien?
C'est lui qui a rompu tout lien. Parce que moi, je voulais le garder au début pour mon enfant.
Hein.
Je voulais quand même qu'il ait l'image de son père, etc. Je voulais pas salir l'image de son père.
Bien sûr.
Et je voulais qu'il puisse avoir un lien avec son père. Donc c'est lui qui a cessé de lui-même tout contact.
Est-ce que vous êtes soulagée aujourd'hui de ne plus l'avoir du tout dans votre vie? Ou est-ce qu'il reste quand même... D'abord, il y a effectivement des réponses que vous n'avez pas eues aux questions que vous vous posiez, mais est-ce que c'est vraiment utile de tout comprendre? Je ne sais pas. Et est-ce que même vis-à-vis de votre petit garçon, est-ce que pour vous, c'est un grand regret?
En fait, pour moi, c'était un soulagement qu'il ait cessé tout contact, parce que finalement, on est sous son emprise et on n'arrive pas à s'en défaire. Donc, la première semaine, j'étais bien, j'étais soulagée. Et c'est après que j'ai eu un contre-coup où je me suis dit, finalement, il s'en fiche de notre enfant. Et c'était ça le plus compliqué. Alors maintenant, j'ai fait le deuil de notre relation. J'ai fait le deuil aussi de cette famille qu'on aurait pu avoir. Mais c'est un travail de tous les jours.
Ève, je vous laisse pas comme ça parce que sinon, c'est pas cool. On se retrouve dans un instant tous ensemble sur RTL. Ne bougez pas.
RTL,
on est fait pour s'entendre. Bonjour,
lev.fr.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand sur RTL.
Eve, vous êtes avec nous, c'était pas possible de se dire au revoir aussi vite, hein. Donc on va vous garder si vous le voulez bien jusqu'à la fin de cette émission. Votre histoire, elle est super touchante et effectivement on entend aussi à travers vos mots la difficulté supplémentaire lorsque l'on est victime d'un manipulateur ou d'une manipulatrice. Beaucoup d'hommes nous laissent des messages sur les réseaux sociaux, qu'on les remercie vraiment pour leur confiance. On se rend compte à quel point c'est d'autant plus difficile lorsque l'on est parent, et puis toutes les questions que l'on se pose pour notre enfant, en fait, Christelle Petit-Collin. C'est-à-dire que Ève a été une femme manipulée, une victime, mais elle a un enfant aussi. Et évidemment, ça en rajoute à la complexité de sa situation. Elle est partie très vite. Elle avait un entourage qui l'a aidée, Ève. Tout à l'heure,
et qui l'a déménagé.
Et qui l'a déménagé, parce que c'est vrai que c'est super compliqué de partir avec un enfant sous le bras et en ayant une vie seule et en ayant une vie si lourde. Christelle Petit-Collin, vous parlez d'évasion plus que de fuite.
Oui, moi je trouve que le fait de dire aux victimes qu'il faut qu'elles fuient,
oui, c'est vrai, vous avez raison.
Et c'est ce qu'on leur dit en général, n'est pas tout à fait adapté, parce que si elles fuient, elles n'auront plus accès à rien, à aucun papier, même pas à leur carte vitale, à leur chéquier, à leur courrier.
Voilà, parce que pour ceux qui nous prendront en cours de route, hein, évidemment, on n'a plus rien. Hein, on n'a voilà. Plus de vie, quoi, en fait. En réalité.
Voilà, donc c'est pour ça que moi je dis, on ne fuit pas, on s'évade. Une évasion, ça se prépare. Il faut mettre à l'abri tous les papiers, faire les photocopies de tous les documents, planquer le livret de famille et les passeports des enfants, prévoir un trésor de guerre, un point de chute. Mmh. Et attention, au moment de la séparation, ils peuvent devenir très violents.
Ce qui n'a pas été le cas pour vous.
Voilà, pour Ève, mais parce que, je vais être très cynique, mais parce qu'il avait une double vie. Et c'est comme un prédateur, si sa proie lui échappe et qu'il n'a pas de plan B, il est en détresse, mais de détresse de prédateur, on est bien d'accord.
Vous l'aviez compris ça, Ève ? Vous l'aviez analysé comme ça ?
Pas forcément, effectivement.
C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut effectivement s'expliquer. Voilà. Si vous aviez été l'objet...
Le seul objet à nourrir
sa perversité.
Voilà. C'est vrai que souvent, et je trouve que Sophie le relève bien aussi, ils ont des doubles et des triples vies, justement, pour éviter de tomber en panne.
Sophie Lambda.
Oui, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, le mien a commencé un peu à me laisser tranquille quand il a commencé à avoir des problèmes avec la seconde. Enfin, quand ça allait bien avec la seconde, il continuait de m'ennuyer. Et quand il a commencé à avoir des problèmes avec la seconde, il m'a laissé tranquille.
C'est ça.
Voilà.
S'évader, vous êtes d'accord avec ce terme, Sophie, rapidement ?
Moi, oui, je pense, oui. J'étais pas aussi engagée matériellement et tout ça, mais par contre, j'ai attendu, je l'ai fait à distance. J'avais peur. Et j'ai attendu qu'ils partent pour le travail et je l'ai quitté à ce moment-là.
C'est un peu ce que vous avez fait aussi, Eve, hein, c'est-à-dire que vous aviez votre famille et il n'était pas là. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas confrontée à lui, parce que si vous étiez confrontée à lui, vous n'auriez peut-être pas eu la force de faire tout ce que vous avez fait.
Oui, mais je pense aussi que lui n'aurait pas assumé d'être là.
Oui.
D'être face à ma famille.
Voilà, alors on peut peut-être conseiller, est-ce que vous pourriez conseiller, Ève, à ceux qui nous écoutent et qui se sentent coincés, d'aller chercher justement du soutien dans un entourage ?
Ah oui, clairement, déjà en parler, c'est très très important.
Vous comprenez que la honte puisse museler dans ces moments-là ?
Ah oui, oui, clairement, oui, oui. Et le fait d'en parler, on se déculpabilise.
C'est ça.
Parce qu'en fait, c'est nous la victime, même si lui, pendant tout ce temps, il essaie de nous faire croire qu'il est lui une victime, mais oui, c'est tout le contraire. Et en parler, on se rend compte que non, flic clocher, c'était lui, c'était pas nous.
Voilà, c'est un message qu'il faut faire passer à ceux et à celles qui nous écoutent. Hein, effectivement, allez chercher du soutien dans votre entourage, n'ayez pas honte, hein, puisqu'on l'aura compris dès le début de l'émission, ça peut arriver à tous. Ève, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur pour vous et puis pour votre petit garçon. Et je vous remercie pour la confiance que vous nous avez accordée. Bon courage à vous, Ève, je vous embrasse. Christelle Petit-Collin, je ne peux que conseiller votre livre « Pourquoi trop penser rend manipulable » aux éditions Très Daniel. On refera une émission pour ceux qui nous écoutent, plus concrète hein, sur ce que vous appelez l'évasion. Hein,
oui,
comment
d'accord.
Sortir des griffes du manipulateur. Aujourd'hui, on aura compris comment ça fonctionne, cette manipulation. La prochaine fois, on parlera de la réaction justement que l'on peut avoir. Merci à vous, Christelle. Merci Sophie Lambda.
Merci
Tant pis
vous.
Pour l'amour ou comment j'ai survécu à un manipulateur, c'est aux éditions Delcourt, on vous le conseille. Et c'est toute la deuxième partie est un fait. Effectivement, un guide très pratique qui peut vous aider. Merci Sophie.
Merci Flavie.
Bon courage à vous, plein de bonnes choses. Demain, dès 15h, une question. Alors que 10 millions de Français boivent trop d'alcool, l'école, on se demandera comment maîtriser notre consommation. Et ouais, voilà une émission utile à l'approche des fêtes de Noël. Allez, on se retrouvera donc dès 15h. Nous serons en direct comme chaque jour sur l'antenne d'RTL. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous laisse en compagnie de Laurent Ruquier et des Grosses Têtes. À demain.
Flavie Flamand sur RTL.
Chez Total Direct.